France Musique. Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
C'est un géant du théâtre qui vient de fêter à la fois ses 80 ans et ses 50 ans de travail ici en France avec trois de ses créations qui ont été données à Paris depuis septembre au Festival d'automne. Bonjour Bob Wilson.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin pour un opéra que vous mettez en scène. C'est Turandot, l'ultime ouvrage inachevé de Puccini. La grande première aura lieu demain soir à l'Opéra Bastille à Paris. C'est jusqu'au 30 décembre. Ce sera sur France Musique le 8 janvier. L'Opéra Bastille que vous retrouvez près de 30 ans après votre production d'un autre opéra de Puccini, Madame Butterfly, qui a été repris de très nombreuses fois. Quels souvenirs vous gardez de ces lieux, de ce théâtre et de cette première expérience avec Puccini?
Vous savez, j'ai participé à l'inauguration de l'Opéra Bastille en 1989. Par conséquent, c'est un endroit qui, pour moi, est très proche de mon cœur. D'autant plus que c'était l'époque où j'ai mis en scène ma première grande pièce, Le regard du sourd, qui durait 7 heures devant le public français. Et je dois cela à Jack Lang, qui à l'époque dirigeait le Festival de Nancy. Et cette année, année de mon 80e anniversaire, j'ai 5 productions en France. Et je doute que d'ici ma mort, il y en ait autant à New York, voyez. Donc, c'est très émouvant pour moi d'être ici en France, notamment à l'Opéra Bastille, dont j'ai participé à l'inauguration. J'ai fait beaucoup de productions ici. Et aujourd'hui, le fait de diriger Turandot avec des costumes de Jacques Reynaud, c'est quelque chose d'autant plus important parce que l'arrière-grand-père de Jacques Reynaud, eh bien, c'était Puccini. C'est Jacques Reynaud qui fait les costumes de mon spectacle. Puccini, ça n'a jamais été mon compositeur préféré. On m'a demandé de faire une première production ici à l'Opéra Bastille de Madame Butterfly, mais j'ai décliné l'offre. J'ai dit non, je n'aime pas Puccini, j'ai pas envie de faire ça. Pourquoi? Eh bien, la musique est très kitsch, à mon avis. Puccini, c'est une musique qui est très profonde dans les émotions, mais ça peut être superficiel aussi. Par conséquent, j'étais un petit peu inquiet ici lorsque j'ai produit Madame Butterfly au début des années 90, mais c'est une production très épurée, très simple. Il n'y avait pas de cerisier en fleurs ou quoi que ce soit d'autre. L'espace était laissé libre à la musique. Et cette fois, dans Turandot, je donne de l'espace à la musique. Parce que il faut pas qu'il se passe trop de choses sur scène. Il faut pouvoir se concentrer sur la musique, sur le texte. Donc, les mouvements sont dans la musique. Le mouvement est dans la lumière. Et les chanteuses et les chanteurs sont, la plupart du temps, immobiles. Ezra Pound, lorsqu'il était en prison à Pise, a dit « Et la quatrième dimension, c'est l'immobilité et le pouvoir d'une bête sauvage. »
Eh bien, cette musique dont vous parlez, la voici, Signore Ascolta, R. Deliu, dans le premier acte de Turandot de Puccini, et Liu, ici, c'est Montserrat Caballé.
Thank you.
Un extrait de Turandot de Puccini, l'air de Liu au premier acte avec ici Montserrat Caballé, l'orchestre philharmonique de Londres dirigé par Zubin Mehta. Bob Wilson est notre invité ce matin, il met en scène Turandot à l'Opéra Bastille jusqu'au 30 décembre, une production qui a été créée à Madrid en 2018. D'ailleurs, un hommage à Montserrat Caballé avait été donné, Bob Wilson. Cette production, est-ce qu'il a fallu l'adapter à la scène de Bastille ou bien elle est entrée très facilement comme une main dans un gant?
L'Opéra Bastille, c'est l'un des plus grands opéras au monde. Et on est sur une scène de 30 mètres par 30 mètres, donc la profondeur de la scène, c'est presque un terrain de foot, vous voyez. En fait, c'est trop grand pour ne rien vous cacher. C'est trop grand pour l'opéra. Il faut plus d'intimité, comme au Palais Garnier, par exemple. Cela étant dit, Puccini, ça s'inscrit parfaitement bien dans cette grande maison, dans ce grand opéra. C'est une production assez grandiose. Il se passe beaucoup de choses, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup d'action. Donc oui, ça passe très très bien. Mozart, au contraire, c'est difficile. Hein. Là, il faut plus d'intimité, un espace plus intime. Puccini, ça va, ça marche.
Vous parlez de la musique, mais cette histoire d'une cruelle princesse, fille d'un empereur d'une Chine ancestrale et qui va mettre au défi Calaf, son prétendant, avec des énigmes. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette histoire?
C'est une histoire toute simple, en fait. En fait, c'est même un peu stupide, c'est simpliste, si vous voulez. Par conséquent, c'est abordable, c'est accessible pour le public. C'est un conte de fées, après tout. Hein. Ce soir, il y aura des jeunes, des enfants même. Et c'est un conte de fées. Il faut jamais oublier qu'il y a peut-être des enfants dans le public. Même si c'est Médée qui tue deux enfants, il faut qu'il y ait des enfants dans le public. Comment s'y prendre? Eh bien, il faut jouer avec la lumière. Tout ce qui est sombre a besoin de lumière. Vous prenez une feuille noire. Vous avez un pantalon noir. Mais si vous avez une feuille blanche sur un pantalon noir, c'est une chose. Mais si tout est noir, la veste, le pantalon, et tout est noir, c'est autre chose. Donc, la lumière. Il faut du contraste. La lumière avant tout. Donc, voilà une princesse cruelle, vous l'avez dit, mais elle s'amuse à être cruelle, un peu comme Ivan le Terrible, vous voyez, dans le film d'Eisenstein. Il s'amuse à être méchant.
Les tableaux, la gestuelle empruntent, et ce n'est pas nouveau chez vous, au Théâtre Renaud. Ça fait par exemple, à la fin de l'opéra, disparaître toute démonstration amoureuse, toute effusion charnelle sur scène. Les acteurs sont comme un peu des marionnettes en deux dimensions. Et à la fin, quand l'amour triomphe, la princesse et Calaf ne s'embrassent pas chez vous. Est-ce que vous voulez frustrer le spectateur, adulte ou enfant?
Non, c'est...
Non, non, je vois pas ça comme ça. Tout est dans le texte. Il
ne
faut pas surjouer les choses. Il faut faire confiance au texte, aux mots, l'histoire est là. Donc, il y a un baiser, mais c'est pas un baiser comme ça, vous voyez. C'est un baiser par la gestuelle.
Et
donc, c'est une histoire de lignes, d'espace, de convergence, de construction. Donc, d'abord, il y a le silence, il n'y a pas de musique. Donc, on a pris le récit et on a des personnages immobiles. C'est la chose la plus difficile à faire sur scène, c'est de rester debout, immobile. Dans mon pays à moi, c'est pas ce qu'on enseigne à la Juilliard. On vous enseigne pas ça. Comment rester debout sur scène, immobile? J'ai fait le voyage d'hiver au Châtelet avec Jessie Norman juste après le 11 septembre. Et elle m'a dit, ah, je ne pourrai pas chanter ce soir. Et je lui ai dit, mais pourquoi? Parce que je vais pleurer. Et moi, j'ai dit, mais Jessie, c'est là qu'il faut entendre ta voix. Elle a dit, je ne peux pas, je vais pleurer. Donc, à 16 heures, elle a dit, bon, je vais essayer. Il y avait 24 morceaux à chanter dans le cycle. Et puis, au bout d'un moment, elle s'est mise à pleurer. Au bout de quelques minutes, elle s'est arrêtée de pleurer et elle est restée pendant 10 minutes en silence devant le public. Et là, le public a commencé à pleurer. Mais elle avait une émotion tellement forte en elle, c'était d'une très grande beauté. Peut-être même plus beau que quand elle chantait. Qui sait faire ça? Pas beaucoup d'artistes, ça je peux vous le dire. Vous avez parlé de Montserrat Caballé. Elle pouvait faire ça. J'ai travaillé avec elle pour Salomé. Montserrat Caballé, elle a beaucoup de présence, vous le savez. Mais ce qui est formidable chez Montserrat, c'est cette intériorité très forte. Et donc, elle était là, et elle vous fait pleurer, parce qu'elle-même, elle fait ressortir les pleurs comme d'une petite fille. D'ailleurs, que vous soyez le roi Lear ou quelque autre personnage de tragédie, il y a toujours l'enfant dans le personnage, c'est ça qui nous émeut.
C'est peut-être le climax de l'opéra, en tout cas l'air le plus célèbre, voici l'air de Calaf, au début de l'acte 3, avec l'un de ses plus grands interprètes, Luciano Pavarotti. Au début de l'acte 3, l'air de Calaf, le tube de Turandot de Puccini, Luciano Pavarotti, l'orchestre philharmonique de Londres dirigé par Zubin Mehta. Turandot, c'est à l'Opéra de Paris jusqu'au 30 décembre, le 8 janvier sur France Musique. On a la chance d'être avec Bob Wilson ce matin. Quelles questions vous vous posez quand vous commencez à travailler sur un nouvel opéra comme celui-ci ?
Est-ce qu'il y a une ligne entre le début et la fin? Une ligne continue. Bien souvent, quand je vais voir des spectacles au théâtre, il se passe ceci, il se passe cela, on vient en arrière, on repart, ça part à droite, à gauche. Non. Il faut ceci, 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 ceci. On ajoute les éléments les uns derrière les autres dans une ligne droite du début à la fin. Une ligne droite. Comment tracer une ligne droite du début à la fin? C'est ça la question. C'est pas facile, hein. Si vous marchez et que vous arrêtez de marcher, ben vous continuez à bouger quand même. Si vous chantez et que vous arrêtez de chanter, il y a toujours du son. Donc, si vous recommencez à chanter, le son continue. Il n'y a qu'une seule ligne. Continue. Donc, pour cette production de Turandot, la première fois, je regarde l'espace. Et à la fin, tout converge. C'est une espèce de continuum. Un continuum du début à la fin. C'est ça que j'essaye d'accomplir. Donc, il y a du mouvement, il y a de la musique. C'est très beau, hein. Et lors de la dernière répétition, il y avait des moments très silencieux. Quand on se remet à parler, même doucement, tout le monde écoute avec beaucoup d'attention. Mais les moments plus calmes, voire silencieux, sont nécessaires. C'est pas la peine de remplir l'espace en permanence avec un son bruyant, hein. Les mouvements lents sont les plus difficiles. En effet, c'est là qu'il y a le plus de tension. Bien souvent, les gens vous disent dans une production de Robert Wilson, tout va lentement. Certes, il y a du mouvement lent, mais il ne faut pas que ce soit ennuyeux. Il ne faut pas y penser, donc. Vous voyez, quand on bouge lentement, mal, ça se passe mal. Donc, c'est comme une espèce d'expérience, c'est intuitif, c'est viscéral, c'est une expérience. Donc moi, je m'intéresse au comportement des animaux. Comment est-ce qu'un chien se déplace? Comment est-ce que le chien perçoit le monde? Pas simplement avec les oreilles, avec ses pattes, avec sa queue, avec son corps, avec son flair. Donc, pour revenir à la ligne continue, c'est une histoire d'écoute. Vous entendez le chef d'orchestre tourner la page de la partition. Vous entendez le pompier qui est dans les coulisses, qui parle à son copain pompier. Vous écoutez votre collègue chanter. Et la musique doit être à l'intérieur de vous. C'est comme ça qu'on peut gérer ce continuum du début à la fin. Donc dès le début, pour répondre à votre question, c'est ça qui me préoccupe, cette ligne droite continue. Vous voyez, quand le geste s'arrête, le mouvement continue. Et parfois, il y a beaucoup d'immobilité. On en fait un petit peu trop sur le mouvement, hein. Et il faut être conscient du son, et ça, on peut le faire dans le silence, plus qu'en présence du son.
Dans votre travail, est-ce que vous posez parfois la question, parce qu'on reconnaît immédiatement votre style, vos lumières, vos décors, est-ce que vous craignez parfois de vous répéter?
La lumière, c'est l'élément le plus important du théâtre, à mon avis. C'est l'élément qui vous permet de mieux voir et mieux entendre. Bien souvent, je ne peux pas me concentrer sur ce que j'entends si la lumière me gêne. Donc, moi, j'éclaire le visage des chanteurs avec beaucoup de précaution. Si je vois la bouche qui bouge, c'est psychologique. Je trouve que je comprends mieux le texte, j'entends mieux la voix. La lumière, c'est, d'après Einstein, l'élément visuel le plus important qui éclaire tout. Donc, c'est la première chose à laquelle je m'attache. Je m'attache d'abord à la lumière. Donc, on fait d'abord une répétition pour les lumières. La lumière crée l'espace. Donc, il faut commencer par ça dans les répétitions. on peut éclairer cette bouteille d'eau là ici, continuer à travailler. Qu'est-ce qu'on va faire si on, la lumière ne porte que sur la lumière? Eh bien, on va regarder la bouteille et puis c'est tout. Donc la lumière est une participante active. C'est pas quelque chose que je fais juste avant la première. C'est la première préoccupation pour moi.
Presto de la première sonate pour violon de Jean-Sébastien Bach, interprétée par Jennifer Coe, qu'on a pu voir en septembre à Paris dans Bach 6 Solo en français. Un spectacle que vous avez conçu, chorégraphié par Lucinda Chagas, interprété par Jennifer Coe. Paris qui vous fête cette saison au Festival d'automne. Bob Wilson, comment vous expliquez cette relation privilégiée entre vous, le Texan, et la France et Paris? C'est le pays où vous êtes le plus joué.
Well, the French are, as I said, they gave me a home. They discovered my work.
Les Français ont découvert mon travail. Ils m'ont donné ma maison. Je vous ai parlé du Regard du sourd, pièce de 7 heures.
Learned a lot actually from.
J'ai beaucoup appris.
From the French. Look what the French
beaucoup appris des Français.
Picasso,
les Français
Brax,
ont accueilli Picasso, Braque, Stravinsky, moi.
André Malraux, in the 50s,
et André Malraux, ministre de la Culture dans les années 50, a dit qu'il faut maintenir un équilibre d'intérêt entre les arts du passé et les arts du présent. Il en va de la vitalité de la création. Il faut un équilibre d'intérêt pour protéger notre patrie et un équilibre d'intérêt pour protéger l'art dans tous les pays. Ça semble très simple, hein, cette politique culturelle. Donc, regardez l'équilibre à mesure que l'on avance. Il faut enrichir la patrie. Il faut répandre la culture. Aux États-Unis, ce n'est pas du tout la même démarche. Regardez Einstein dans le budget opéra que j'ai monté avec Philip Glass. Imaginez le gouvernement américain qui demande à deux Français de venir monter une pièce aux États-Unis comme ça. La première production au Festival d'automne, c'était il y a 50 ans. Michel Guy, qui était le directeur du Festival d'automne et qui ensuite est devenu ministre de la Culture, m'a demandé de monter la pièce inaugurale du Festival d'automne. C'était une pièce de, tenez-vous bien, 24 heures, qui n'a été jouée qu'une seule fois, à l'Opéra Comique.
Wow!
Incroyable! C'est inimaginable que cela puisse être monté aux États-Unis. Personne n'osera monter une pièce comme ça, une pièce qui n'est jouée qu'une seule fois, pendant 24 heures. Michel Guy était un visionnaire. C'était très spécial pour les spectateurs qui ont vécu cela. C'est comme une étoile filante. Ça n'a jamais été rejoué.
L'entrée cette semaine de Joséphine Baker au Panthéon, une Française née américaine et une artiste du spectacle vivant. Est-ce que ça vous réjouit, Bob Wilson?
Une artiste étonnante.
Protector of animals. She was a popular entertainer. She was black.
Artiste extrêmement talentueuse dans différents domaines. Noir, on lui rend hommage en France. Elle était formidable à bien des égards.
Il
est tout à fait justifié que les Français lui donnent un lieu de repos au Panthéon. C'est absolument formidable.
Turandot de Puccini à l'Opéra Bastille à Paris jusqu'au 30 décembre, diffusé sur France Musique le 8 janvier. On se rencontre ici à l'Opéra Bastille, juste avant l'avant-première jeune. Merci Bob Wilson.
Merci.
Principessa di morte à l'acte 3 de Turandot de Puccini, un enregistrement réalisé par l'Opéra de Paris lors de la générale de cette nouvelle production qui est dirigée par Gustavo Dudamel avec les voix entre autres d'Elena Pankratova et Gwyn Newjones. Turandot, superbe production, j'ai eu la chance de voir la répétition générale de Bob Wilson, c'est jusqu'au 30 décembre à écouter sur France Musique le 8 janvier. Lundi, notre invité sera le pianiste Alexandre Tarot au générique de Musique Matin, il y avait Xavier Attaud, tout Diego Aclopès, Flora Sternadel, Marjolaine Portier-Kaltenbach, Pierre Matignon et Taïssia Froidur. Enfin, notre voix mystère il y a une heure, c'était celle de Jean-Luc Godard. Ils ne sont pas à bout de souffle, enfin j'espère. Moi si, c'est Émilie Munira et Rodolphe Bruno Boulmier. Bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste. Non, pas encore à bout de souffle, heureusement. Mais on va entendre, alors pas du souffle, mais un violon. Un violon lyrique, celui de Shinju Cho, qui enregistre 500. Et c'est un très beau disque enregistré avec Mathieu Herzog. Je sais pas si, je crois que vous avez eu l'occasion d'en parler.
C'était Gabriel Le Virgule qui l'a reçu.
Absolument, c'est ce que j'ai vu. Gabriel l'a reçu, il parlait de 500. Voilà.
Un violon qui chante, donc.
Un violon qui chante, c'est ça même.
Bon week-end à lundi.
À lundi.
À réécouter sur francemusique.fr.